Le Café numérique des arts, lettres et sciences humaines, Université Laval, Québec. Rencontre du 20 octobre 2011. Milad Douéhi nous entretient de l'humanisme numérique.
Bonjour, merci d'être là et je tiens à remercier René pour son invitation, me donner l'occasion de discuter avec vous un petit peu ce que j'ai choisi d'appeler l'humanisme numérique. Ce que je me suis dit dans les 40 minutes qui me sont données ce matin, c'est d'essayer de donner une idée de pourquoi j'ai choisi cette formulation qui parfois semble gênée dans certains milieux ou dans certains contextes, puis après essayer de dire quelques mots au-delà de ce que j'ai fait dans l'essai qui vient de paraître il y a un petit mois aux éditions du Seuil sous le titre « Pour un humanisme numérique ». Mon point de départ était double. Tout d'abord, c'était un regard ethnologique, anthropologique sur l'évolution et les mutations induites par la culture numérique que je vais essayer d'illustrer assez rapidement. Et un second, c'était une dimension presque polémique, si j'ose dire, avec les usages actuels qu'on connaît tous, surtout dans les domaines de la littérature comme dans les sciences humaines, de ce qu'on peut appeler rapidement les humanités numériques, les digital humanities, avec le rapport un peu difficile entre à la fois une certaine maîtrise des outils numériques et la manière dont ces outils peuvent modifier nos pratiques érudites et savantes d'une part, et en même temps, surtout, c'est ça peut-être qui est le plus intéressant à la longue, le plus enrichissant, comment elles peuvent modifier le statut institutionnel de nos disciplines. Alors tout d'abord, le point de départ qui était celui de ma réflexion. Je me suis penché sur cette question en essayant d'essayer de comprendre comment l'informatique, avant de parler du numérique, parce qu'au même il y a un glissement dans notre vocabulaire assez intéressant, on passe sans cesse entre informatique et numérique, en anglais c'est pareil, on parle de computing, on parle de digital, et on retrouve un petit peu partout. Il y a un glissement qui a eu lieu comme si un changement fondamental a été effectué. Et il me semble que l'informatique occupe une position assez particulière dans le cadre des sciences. Tout d'abord, c'est une science qui a commencé comme une branche des mathématiques, et très très rapidement, elle s'est autonomisée, et les mathématiciens ont reconnu qu'elle est une science à part entière. Et puis après, et c'est assez rare, à ma connaissance, il n'existe que la chimie, qui partage ce destin avec l'informatique, elle est devenue une industrie. Parce que la physique n'est pas une industrie, les autres grandes sciences pures, comme on dit, alors que l'informatique, assez rapidement, et mais presque dès le début, est devenue industrie. Et curieusement, elle est aussi devenue culture. Et ça, c'est dans ce texte-là que l'informatique a une histoire assez particulière qui est en grande partie une autre histoire actuelle avec nos négociations avec le numérique. Comment est-elle devenue culture? C'est une grande question, on ne va pas entrer dans les grands débats comment définir la culture. Peut-être la manière la plus simple et la plus efficace pour nos discussions ce matin, c'est dire qu'elle modifie notre regard à la fois sur les objets hérités de notre patrimoine et de notre passé. On parle de numérisation sans cesse, on numérise énormément de choses, pas seulement le patrimoine, mais en même temps, elle donne lieu, elle a donné naissance à de nouvelles valeurs, et surtout à de nouveaux critères. Et c'est dans ce sens-là que l'informatique, en se transformant en numérique, est une culture. Alors après, pourquoi associer ce mot d'humanisme, qui peut paraître nostalgique, ou même parfois réactionnaire pour certains, avec cette culture toute récente qui semble agiter et fragiliser certains de nos repères. Je donnais trois pistes qui étaient les miennes que j'ai adoptées. La première, qui est peut-être la plus accessible et qui est relativement, implicitement en tout cas, problématique, j'ai repris un très beau texte de Claude Lévi-Strauss qui date de 1956, qui était une note technique rédigée pour l'UNESCO sur les liens qui puissent exister entre la civilisation technique, comme on disait à l'époque, et les sciences sociales et humaines. Et à la fin de son texte, Claude Lévi-Strauss postule trois humanismes qui auraient marqué d'une manière absolument déterminante, selon lui, l'histoire de l'Occident. Le premier humanisme, c'est l'humanisme de la Renaissance, qu'il identifie comme un humanisme aristocratique, et qui est effectivement associé à la découverte des textes de l'Antiquité classique, et surtout à la mise en place de la pratique philologique et de la critique historique. Le second, et plus intéressant, c'est l'humanisme du XIXe siècle, et qu'il identifie comme bourgeois et comme exotique, et qui reflète la découverte des cultures autres, surtout asiatiques, et qui ont nécessité un regard comparatif entre l'histoire de l'Occident, sa généalogie historique, culturelle, avec ses autres cultures, avec leur propre temporalité et leur propre histoire. Et du coup, c'était très très essentiel, il a existé, selon Claude Lévi-Strauss, avec ce regard de l'exotisme, la naissance de la méthode comparative, qui est commencée en tout cas pour lui, comme beaucoup d'autres, qui a donné lieu à la naissance des grandes disciplines en sciences humaines, la linguistique, tout ce qu'on connaît. Et finalement, au XXe siècle, il identifie ce qu'il appelle le troisième humanisme, qui était de l'actualité dans les années 50, qu'il appelle et qu'il nomme, qu'il qualifie comme humanisme démocratique, et qui est le sien, qui est celui de l'ethnologue et de l'anthropologue. Il est démocratique à plusieurs égards, selon lui. Il est tout d'abord démocratique parce qu'il prend en compte ce qui a été exclu par la rationalité et la raison occidentale. Le mythe, le geste, tout ce qui, l'oralité, tout ce qui n'a pas été inclus dans la grande tradition à la fois littéraire et humaniste, est repris et étudié par l'anthropologue. Et du coup, il y a une forme d'élargissement du champ. Deuxièmement, il est démocratique parce qu'il permet un regard qui n'est pas exclusivement occidental, selon Claude Lévi-Strauss. Ça reste à discuter, parce que quand on lit Lévi-Strauss de près, c'est une question qui n'est pas aussi simple que ça. Alors, avec ces trois déclinaisons, il m'a semblé qu'il y a trois ou quatre éléments à retenir. Tout d'abord, effectivement, on peut regarder les trois humanistes de Lévi-Strauss comme le rapport de l'Occident aux documents pris au sens large du terme. Avec l'humanisme de la Renaissance, effectivement, on passe d'un paradigme où la généalogie du texte détermine sa validité vers la vérité de l'énoncé qui donne lieu à la valorisation du texte lui-même. L'exemple qu'on donne classiquement, toujours, et celui était toujours valable, c'est celui de Lorenzo Valla avec la donation de Constantin, qui regarde le texte qui a été censé autoriser le pouvoir temporel de l'Église catholique et qui dit c'est un texte qui a été fabriqué, c'est un faux. Et du coup, il y a un déplacement de paradigme qui a eu lieu. Effectivement, avec le second humanisme, c'est la notion même de document s'est élargie au-delà du modèle occidental avec l'importation des contraintes, surtout du point de vue méthodologique. Il suffit de se rappeler les débats sur ce que c'était qu'être arien au XIXe siècle après la découverte à la fois de l'Inde et du Japon et de la Chine de manière assez étonnante pour se rendre compte des enjeux qui étaient mis en place. Et effectivement, avec Lévi-Strauss lui-même qui se présente comme héritier direct de Mauss, on retrouve que le document devient aussi humain. C'est le sujet humain dans la constitution du sujet mythologique, dans le sens du mythe selon Lévi-Strauss. Et du coup, on a une évolution dans la construction du rapport du regard savant avec le document. Il me semble, si on accepte cette schématisation assez rapide, que le numérique peut présenter un quatrième humanisme, ou une forme de ce quatrième humanisme, parce que tout d'abord, il problématise notre regard sur ces quatre, sur ces trois modèles, si vous voulez, du document, en introduisant, par contre, et surtout, et c'est ça le point peut-être le plus important, une nouvelle manière de créer des documents dans le sens simple et élargi du terme qu'il faut méditer. Deuxième élément, c'était la dimension politique. On commence avec l'aristocratie, on arrive à la bourgeoisie qui est associée évidemment au XIXe siècle avec la révolution industrielle, et puis on est dans une ère démocratique qui est celle du XXe siècle. Alors aujourd'hui, effectivement, c'est un lieu commun de dire que le numérique est associé à nos pratiques démocratiques, bien qu'on est tous conscients, que ce soit quand on regarde les événements dans le monde arabe ou ailleurs, qu'ils modifient aussi notre compréhension de ce que c'est que la démocratie. Et il y a cette dimension politique qu'il faut retenir, et à mon avis qu'il faut penser, et essayer de réfléchir de manière très très précise, de quelle façon le numérique modifie même l'espace démocratique, l'espace et la sphère publique. Alors c'est la deuxième dimension qui m'a incité à utiliser, à parler d'humanisme numérique. La troisième, qui pour moi était très importante, c'est une certaine idée de l'humain qui est définie et caractérisée par son rapport avec l'espace et la spatialité. Ça a toujours existé depuis les Grecs, où on a dit que ce qui donne la spécificité de l'homme, à la fois c'est la parole, la langue, c'est peut-être c'est un préjugé de Lévi-Strauss qu'on retrouve dans tous ces textes, mais aussi c'est la manière dont l'homme et l'humain façonnent et habitent l'espace. Et il me semble, et c'est pour moi très, très important, que le numérique est d'un humaniste dans ce sens précis, qu'il modifie notre rapport à la fois avec le temps, mais surtout avec l'espace, tout d'abord dans une forme hybride de l'espace entre le soi-disant concret réel d'une part, et d'autre part, cette idée du virtuel qui reste à déterminer, mais plus important encore, dans la manière dont il existe sans cesse des passerelles continues à travers à la fois des plateformes et surtout des interfaces, entre ces deux formes de spatialité. Et on est en train de vivre cette évolution comme il y a une convergence entre les deux qui modifie notre rapport avec la manière dont on construit notre habitus. Et c'est cette dimension spatiale qui évidemment m'intéresse beaucoup. Alors, pour dire deux mots sur cette spatialité, je reviens vers un texte qui était important pour Lévi-Strauss, mais qui ne le travaille pas de la même manière. C'est un article, puis après qui est devenu un petit livre important de Marcel Mauss, qui s'intitule « Les techniques du corps ». Des années 40. Et dans les techniques du corps, Mauss réfléchit sur les liens qui existent entre le statut et la position d'un corps dans une civilisation et la nature de l'objet culturel dans une telle civilisation. Il donne un exemple qui est devenu classique dans la littérature ethnologique, en tout cas de l'époque. Il oppose une civilisation de la chaise avec une civilisation sans chaise. Pour lui, les deux cas, c'était la Chine, qui est la culture de la chaise. Il suffit de regarder les tableaux, les peintures, pour s'en rendre compte. Et l'Inde, qui est une culture sans chaise. Et de là, il commence à comparer les produits culturels et il note qu'il y a quand même quelque chose de très très déterminant dans ce positionnement du corps dans l'espace d'une civilisation. Il m'a semblé, en réfléchissant sur l'évolution de ces humanismes, que la culture numérique a commencé comme une culture de la chaise, une culture du bureau, une culture stationnaire, et elle est en train de devenir une culture de la mobilité ambulante. Et du coup, à la fois, notre regard sur les objets culturels hérités s'est modifié au fur et à mesure qu'on est devenu de plus en plus mobile, et surtout, c'est ça ce qui m'intéresse, c'est que les objets culturels qu'on est en train de produire aujourd'hui sont à la fois hybrides, mais tendance vers cette mobilité. Et du coup, on est en train de modifier notre rapport avec la culture au sens large du terme. C'est un petit peu ça le cadre que j'ai essayé de développer dans l'essai sur l'humanisme numérique. Deux remarques quand même qui restent à faire avant d'entrer dans quelques détails. Si on regarde et si on accepte, malgré les réticences qu'on peut avoir, le modèle de Lévi-Strauss, on est frappé par quelque chose, l'absence du XVIIIe siècle. Parce que d'habitude, quand même, on nous dit sans cesse les Lumières, c'est important, c'est déterminant, ça joue un rôle très significatif. Et surtout que Lévi-Strauss, ce n'est pas un auteur qui a ignoré le XVIIIe siècle. Il faut se rappeler quand même qu'il a écrit beaucoup sur Jean-Jacques Rousseau. Alors on se demande, on est en droit de se demander pourquoi cette absence, pour ne pas dire cet oubli, du XVIIIe siècle. Je suis pas sûr, moi je suis pas un spécialiste de Claude Lévi-Strauss, mais quand on lit de près, il me semble qu'il a identifié d'une manière implicite quelque chose qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est moi, ce que j'appelle l'héritage conflictuel et presque contradictoire du siècle des Lumières avec la culture numérique. On peut le résumer de plusieurs manières. La première, c'est dire que la fin du XVIIIe siècle, à la fois en France avec les philosophes, mais comme en Allemagne et ailleurs, surtout aussi également en Grande-Bretagne, a donné lieu à l'aboutissement de la culture du livre et de l'imprimé, avec la mise en place des formes juridiques de la figure de l'auteur, qui ont donné lieu à des modèles économiques qui sont devenus pour nous absolument essentiels. Aujourd'hui, on est en train de vivre cette crise du sacre de l'écrivain, pour reprendre l'expression de Benichou, surtout dans le cadre de l'environnement numérique. En même temps, il a existé également dans le XVIIIe siècle, à la fois en France comme ailleurs, cette autre idée qui a toujours été présente et qui est présente toujours actuellement, celle du bien commun et qui est en contradiction avec le sacre de l'écrivain dans ses formes à la fois juridiques et politiques. La culture numérique aujourd'hui nous incite, non pas seulement nous invite à mon sens, à choisir entre l'un et l'autre parce qu'on ne peut pas les maintenir ensemble comme on a essayé de le faire. L'une des grandes difficultés qu'on rencontre avec moi, ce que j'appelle le fétichisme du livre, parce qu'il y a quand même un fétichisme de cet objet qui est étonnant, et surtout dans le monde francophone en tout cas, qui continue à imposer des modèles à la fois éthiques politique et économique sur la culture numérique qui sont en contradiction avec les propriétés quasi naturelles de ce que c'est qu'un objet numérique. Et du coup, il y a une réflexion à poursuivre de voir est-ce qu'il existe un autre modèle qui soit un modèle de valorisation à la fois culturelle, éthique, économique et politique, ou autre chose. Je vais donner deux illustrations, si vous voulez. Le premier, c'est le vote électronique. Je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu, ça commence à agiter les débats, surtout par exemple en France, parce que c'est une année électorale. Et on se rend compte tout de suite que le vote électronique pose deux problèmes, en gros. Évidemment, il y a la dimension technique, il faut s'assurer de la sécurité, de la procédure, je ne veux pas rentrer dans ces détails, on peut en discuter si ça vous intéresse, mais quand on regarde de l'autre côté, ce qui gêne, c'est que la notion et la conception d'identité qui est derrière le vote classique ne peut pas se traduire et se transmettre d'une manière transparente vers le vote électronique, parce que l'identité numérique est tout à fait autre. Elle est en partie déterritorialisée, et aussi elle met en difficulté les façons de contrôler l'identité classique qui était celle de l'identité de l'État, le sol, le sang, tout ce qu'on connaît. Et du coup, on est devant une vraie question de l'exercice politique démocratique premier qui associe le citoyen à son droit de représentativité. Deuxième élément, et ça va nous revenir vers la question du XVIIIe siècle, il me semble là qu'il y a un problème aussi politique, on le voit très très clairement en France, c'est-à-dire il existe une idée de la volonté générale qui est également héritée du XVIIIe siècle et qui a construit une architecture, disons, de la représentation politique qui est aujourd'hui mise en difficulté par les pratiques numériques. Un exemple très simple. Quand on regarde les réseaux sociaux, il est peut-être permis de dire que les internautes ne cessent de voter sans cesse. Il suffit de regarder la multiplicité des boutons qu'on a aujourd'hui, poke, like, j'aime, tout ce qu'on sait par cœur, ainsi de suite. On est en train de voter sans cesse, mais d'une manière inédite. Alors effectivement, puisque les interfaces aujourd'hui du vote électronique vont de plus en plus converger, ressembler un petit peu à ce que les internautes font dans l'espace de la sociabilité, le rapport avec l'acte démocratique est modifié. Il se trouve que le législateur n'a pas pris en compte cette évolution. Et c'est l'un des effets inédits de cette sociabilité dans la dimension politique de la question. Alors c'est une première, un premier exemple. Le second, effectivement, c'est avec, disons pour rester encore deux minutes, avec le livre. Dans sa structure et surtout dans les pratiques de lecture et d'écriture qu'il a autorisé et qu'il valorise. Pour simplifier, on peut dire, évidemment, il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet, moi je suis le dernier à être le spécialiste de la question, mais ce qui a toujours donné un pouvoir énorme au livre, c'est sa fixité. C'est un objet, une fois qu'il a produit, sauf si on fait le choix de la violence, détruire, séparer des pages, il est fixe. On ne peut pas le modifier d'une manière facile ni transitive. Par contre, l'objet numérique, de par sa nature, est convertible. Il doit obéir à l'évolution des formats et surtout, il doit obéir à la culture du réseau. Être transmis, être partagé, être fragmenté selon les contraintes qui sont celles de la culture de l'échange et de la transmission. Et du coup, il y a cette divergence, et on a essayé sans cesse, et on essaie sans cesse, que ce soit avec la gestion des droits numériques ou d'autres manières de faire, d'essayer de rapprocher les deux en imposant le livre comme le modèle paradigmatique. Et il me semble que c'est un véritable problème, et cette forme de économique, parce qu'elle est en fin de compte absolument économique, reste à voir et, disons, à revoir. Alors, c'est un premier échantillon, si vous voulez, de ce que j'ai essayé d'appeler humanisme numérique. Deuxième, c'est ça, on peut parler quelques minutes, c'est la dimension de la diversité culturelle ou la diversité linguistique, si vous voulez. Il se trouve aujourd'hui en train de vivre une sorte de contradiction, si je me permets l'expression, entre à la fois des plateformes qui sont à l'échelle globale, quand on regarde de près, il y a 4 ou 5 qui dominent. Les autres sont vraiment des dérivés de ces plateformes, et qui, au début, on aurait pu soupçonner qu'elles vont imposer des formes de formatage Hein. Par contre, il s'est avéré qu'avec l'évolution actuelle de cette sociabilité, il y a eu un retour insoupçonné du local. Il suffit d'observer nos propres expériences. Quand on se déplace d'un pays à un autre, les efforts qu'il faut faire pour modifier un moteur de recherche pour ne pas imposer une version locale en une langue spécifique. Si vous allez en Allemagne pendant 4 essais, on va vous donner Google en allemand, sauf si vous insistez, vous insistez, vous insistez. Ce retour de local, effectivement, il est façonné par plusieurs critères, et ce sont ces critères qui m'ont intéressé. Tout d'abord, c'est la socialisation du paradigme algorithmique de la suggestion. Il suffit de commencer à taper un petit mot, et on vous suggère. Ces suggestions, ces recommandations qui sont données par les algorithmes, intègrent à la fois la popularité d'un certain terme ou la fréquence de la recherche ou de l'usage d'un certain terme avec des variables ou des données qui sont à la fois locales et linguistiques. Et c'est ce mélange, hein, ce métissage à la fois théorique et en même temps culturellement déterminant qui m'intéresse et qu'il faut essayer d'étudier, de voir qu'est-ce qu'il permet comme retour vers une forme de diversité pour également éviter certaines des contraintes qui sont imposées. Deuxième élément, c'est la culture de la recommandation qui s'impose aujourd'hui. Bon, j'ai appelé ça dans le livre, hein, le triomphe du voisinage. Il y a quelque chose qui était mathématique, c'est en algèbre, dans la théorie des groupes, qu'il existe certains éléments dans un ensemble qui ne sont pas exactement les mêmes, mais qui partagent les mêmes qualités parce qu'ils se rapprochent dans leur positionnement dans un ensemble avec des caractéristiques de relation. Il me semble qu'on a généralisé ce modèle arithmétique vers la sociabilité aujourd'hui. Vous pouvez naviguer en termes de voisinage en regardant sans connaître, sans avoir aucune idée de l'identité, de l'intérêt, de quoi que ce soit des gens qui sont autour de vous dans la géolocalisation. Vous pouvez aussi, on vous suggère sans cesse des thèmes, des livres à acheter, des mots à chercher, des amis à essayer de les contacter sur Facebook en termes de voisinage. C'est cette forme de transitivité qui est construite à la fois par les algorithmes, mais surtout par des préjugés et par des présupposés qui sont de nature culturelle et politique, à mon avis, et également, évidemment, il ne faut jamais l'oublier, mais on peut en discuter après, économique. Et ce modèle de voisinage est de plus en plus renforcé par tout ce qu'on est en train de voir émerger, si vous voulez. Ce qui accompagne ce voisinage, c'est actuellement ce qu'on appelle curation, la curation, qui est devenu un petit peu le mot clé d'une évolution de la sociabilité, c'est-à-dire un retour vers une implication de l'identité numérique dans le choix, la transmission et l'évaluation des données. Au lieu de rester dans un univers qui était entre algorithmes d'une part et une forme d'absence d'implication, d'une forme de la signature de l'individu, on est retourné vers une valorisation de choix individuels. Et du coup, on témoigne à des formes d'inversion qui, en tout cas moi, m'ont intéressé et me passionne. C'est-à-dire, dans l'âge de la surabondance, on revient vers l'individualité. On a tellement d'informations, tellement de ressources. Du coup, ce qui est de plus en plus valorisé, c'est l'intervention individuelle dans un réseau spécifique d'amis, de contacts, de followers, de tout ce qu'on peut. C'est une première dimension parce que elle a aussi des conséquences, ou en tout cas peut avoir des suites politiques ou économiques. Deuxième élément, c'est comment de nouvelles technique crée de nouvelles valeurs. Le cas le plus évident, c'est la géolocalisation. Elle a existé depuis longtemps, on savait qu'elle existait avec tout ce qu'on savait, mais aujourd'hui, avec la convergence entre le réseau et le mobile, elle est devenue déterminante. Elle réduit à la fois l'espace où on se trouve, mais en même temps, elle permet une plus grande efficacité. Et là, une question qui se pose, c'est que il est vrai qu'on a toujours dit, après de Certeau et des gens qui ont élaboré sa notion des usages effectifs, que l'usage effectif peut modifier la nature de la technique. Il peut contourner, il peut permettre des usages qui sont imprévus et même insoupçonnés. Mais en même temps, la question se pose, existe-t-il des usages efficaces de la technique elle-même, qui sont automatisés et automatiques? Parce qu'on a souvent tendance à regarder la technique du point de vue de l'individu, du groupe, de la collectivité. Mais néanmoins, on a souvent oublié, ça il suffit de le relire, par exemple ce que Alain Giffard a fait sur la lecture industrielle, que la technique est sans cesse en train de lire. Elle est devenue l'agent premier de la lecture mondiale aujourd'hui. Évidemment, cette dimension industrielle s'applique à d'autres catégories et à d'autres dimensions de la culture numérique et des plateformes. Et du coup, il faut regarder un petit peu ces dimensions de l'évolution de la technique elle-même dans une dynamique de double efficacité. D'une part, des usagers, des utilisateurs, de leur univers multiple, et d'autre part, de la technique elle-même. Et là, on voit l'émergence, ou en tout cas le retour, de plusieurs facteurs, puisqu'on dit, je vais juste mentionner un seul, c'est le retour massif, bon, je dirais, mais c'est entre guillemets qu'il faut mettre, du récit et du narratif. On voit toute une série de plateformes, d'applications, il suffit de rappeler Storyfy, Stories Matter, tout ce qu'on peut aller, il y a comme une nécessité de retourner vers le modèle ou la forme de la narration, parce qu'il y a cette forme de la fragmentation qu'on peut discuter évidemment, qu'on est en train de vivre et témoigner. Mais comment expliquer ce retour du narratif et surtout comment l'évaluer dans le contexte des plateformes? Effectivement, tout d'abord, il faut se rappeler que ce récit est construit de manière tabulaire dans tout ce qui est plateforme numérique. L'exemple de Storyfy est le plus clair. Vous avez à gauche une colonne dont vous allez avoir accès à tous les flux de vos flux RSS, de Facebook, de Twitter et ainsi de suite. Vous déplacez quelques éléments à droite, vous les organisez selon une hiérarchie de votre choix, vous donnez un titre, vous signez et vous partagez et c'est un récit. Vous fabriquez un récit. Alors on voit ici dans les traités de la rhétorique, c'est pas l'énumération est le cas ultime de la description. Et ici, on est en retour vers une certaine modulation rhétorique dans ce sens de la figure, mais dans le cadre des contraintes imposées par les plateformes. Et là, et on a des choses à regarder, surtout pour des spécialistes qui s'intéressent à ces questions, c'est à la fois qu'on peut appeler la banalisation du geste éditorial, qui est devenu aujourd'hui tellement incorporé dans les plateformes qu'on a oublié qu'il existe. Il suffit de créer un blog sur une plateforme comme Drupal ou WordPress ou autre chose. Vous avez déjà des fonctions d'éditeur, d'administrateur, de lecteur, de commentaire, ainsi de suite. Il y a toute une série d'activités qui sont et qui étaient, qui figuraient dans le cadre d'un geste éditorial qui appartient à la culture du livre et de l'imprimé, qui se sont transmises et transformées dans un cadre de l'interface, qu'il faut interroger, parce que souvent ce sont des formes de contraintes également qui nécessitent un regard. Deuxième élément, c'est le passage vers à la fois la forme brève, le fragment et le microformat. Et de plus en plus, on y en trois, moi j'avais déjà travaillé ça il y a depuis longtemps, sur la fragment, ce que j'avais appelé à l'époque la tournure ontologique. C'est-à-dire on fait des ontologies en retirant des fragments, des morceaux, et qu'on va rassembler d'une manière ou d'une autre selon des critères variables et les faire circuler au-delà de leur contexte premier. Or, il se trouve aujourd'hui qu'il y a une convergence tout à fait essentielle, relativement simple, mais qui est en train d'évoluer, c'est qu'il y a d'une part ces formes ontologiques, mais qui sont nées aussi d'une contradiction. C'est-à-dire, dans l'Antiquité, on regarde même dans le monde pré-biblique, on a toujours eu des fragments qui étaient très importants, comme dans le monde grec. L'ontologie a été imaginé en partie à cause de la rareté et de la préciosité. Mais aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. On fait des ontologies parce qu'on a trop. Et c'est cette inversion, moi, qui m'intéresse, alors que la pratique, dans sa nature, est peut-être la même. Alors, il y a cette dimension. Mais ce qui est important aussi, en tout cas pour moi, c'est la convergence entre cette dimension de l'ontologie avec l'ontologie, la sémantique. Parce que c'est effectivement grâce à la sémantique qui combine deux éléments, à la fois la lecture industrielle automatique de la machine, parce qu'il y a toujours des qualités, des qualificatifs, des mots-clés, des tags qui mettent en place des formes d'intelligibilité qui deviennent des formes d'accès, et en même temps, il y a des ontologies individuelles ou produites par des groupes qui viennent être surimposées sur des vocabulaires ou bien érudits ou bien automatiques et hérités. Et c'est cette convergence entre les deux qui peut donner lieu à une modification de notre rapport avec le savoir, mais également avec la manière de le produire. Évidemment, nous, nous sommes habitués dans l'académie, dans les institutions, à vivre avec des vocabulaires assez définis selon une tradition, une généalogie très très institutionnelle. Si vous êtes un historien économique, vous avez un vocabulaire très très spécifique. Si vous faites de l'histoire sociale, c'est déjà différent, et ainsi de suite. Et parfois, on a du mal à traduire et passer entre ces ontologies ou ces univers sémantiques. Il se trouve aujourd'hui que le vulgaire, dans le sens étymologique du terme, a, dans certains contextes, dans certains milieux, autant de pouvoir que ces ontologies savantes. Et là, il existe un conflit d'autorité et un conflit de légitimité qui se développe. Et c'est là où on peut retrouver, si on veut, la dimension de Digital Humanities qui est en train d'essayer de négocier entre la volonté de faire passer du côté des foxonomies, de cette ouverture sociale, et en même temps la nécessité de survivre dans l'institution avec toutes les contraintes qui nous sont imposées, et essayer de faire passer les pratiques de l'intérieur. Évidemment, ce qu'on retrouve, et c'est ça pour quand même l'essentiel, c'est une généralisation des pratiques savantes et lettrées à une échelle imprévue et inimaginable avant la culture numérique. Alors effectivement, est-ce que cette forme de compétence de littératie est entièrement consciente ou non, peu importe à la fin, mais néanmoins, on trouve des pratiques, qu'elles soient ontologiques ou autres, qui étaient réservées au monde lettré et au monde savant, et qui aujourd'hui sont devenues une partie absolument intégrale de la culture numérique à la plus grande échelle. J'ai encore quelques... Alors, de cette dimension, on peut regarder plusieurs éléments qui peuvent être intéressants. Par exemple, pour donner une illustration peut-être de cette inversion, si vous voulez, entre la rareté d'une part et en même temps des formes de pratique, l'image, par exemple, nous donne une illustration tout à fait importante. Bon, je me rappelle quand j'ai commencé, fin des années 80, à utiliser les ordinateurs, la promesse qui était toujours donnée, c'est que un jour, vous allez avoir un ordinateur qui va vous permettre de manipuler une image très grande avec tout ce que ça donnait à penser. Alors aujourd'hui, on a ces ordinateurs, René a un MacBook Air qui peut manipuler une image de 1 gigabyte s'il veut, mais en même temps, ce que j'observe, c'est que avec cette dimension de puissance informatique, grâce à la pratique sociale, l'image se miniaturise. Il y a aussi une inversion. Il suffit de regarder ce qu'on fait avec les images. On stocke des images de très très grands points, mais quand on les utilise, sauf dans des cas très très précis, on est dans la miniaturisation. Et il me semble là, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, qui est très puissant, cette tendance vers la miniature qui touche à la fois au fragment, à la fragmentation textuelle et discursive d'une part, mais également à la dimension du rôle, du statut de l'image comme miniature, dans un environnement qui tend de plus en plus vers le micro, pour ne pas dire le nano. On est en train de réduire autant qu'on a de puissance. Et cette inversion proportionnelle, quand même, donne à réfléchir. Évidemment, si on veut, on peut choisir de la regarder d'une manière algorithmique, c'est-à-dire dire que on peut prendre deux écrans, disons, du début du 18e, ou pas exclusivement, mais quand même du début du 18e, hein, on peut prendre des exemples, évidemment j'exagère un petit peu pour la comparaison, Newton et Leibniz. Newton a triomphé, il était l'homme qui représente la science, qui a donné quand même une idée de la mécanique céleste, comme il l'appelle, et puis après, on est revenu vers autre chose qui est beaucoup plus complexe, que ce soit avec le quantique, que ce soit ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Mais en même temps, il a existé aussi, et lui, Newton, était également responsable pour ça, le calcul infinitésimal. Et il faut regarder du côté de Leibniz et de son héritage, surtout dans la logique sémantique. Et là, la figure qui est importante, c'est Frege, qui a repris les systèmes de notation de Leibniz pour essayer de retrouver le plus petit dans sa dimension esthétique et épistémologique, dans un cadre où on était pris par la dimension de plus en plus globale. Avec le numérique, et c'est ça ce qui est intéressant, on retrouve ce même modèle dans sa dimension de déploiement. Et là, évidemment, si on allait dans la version technique, on retrouve les théories du voisinage arithmétique qui vont nous amener vers le plus petit et le plus petit. Et peut-être pour terminer un petit peu la réflexion, je vais parler pendant 5 minutes avec toutes ces manière de voir, regarder ce que le numérique fait, je suis frappé par une deuxième inversion, que dans notre histoire, en tout cas en Occident, on va parler de ce qui est non occidental, mais c'est moi ça m'intéresse, que on a toujours constitué le patrimoine par défaut, c'est-à-dire ce qui a été hérité, ce qui a survécu, est devenu notre patrimoine. Avec le numérique, il suffit de regarder les commissions qui existent, que ce soit dans les grandes bibliothèques nationales, les musées, les universités, l'État, le gouvernement, on est en train d'inverser encore ce rôle. On veut constituer un patrimoine par un choix positif et explicite. On est en train de discuter sans cesse comment, qu'est-ce qu'il faut numériser, préserver en numérique. Cette inversion est très importante parce qu'elle touche à notre rapport avec la mémoire collective. Et là, il me semble qu'il y a une illusion qui s'est mise en place. Non pas du fait que on peut tout numériser, comme on avait dit il y a 20 ans, maintenant on comprend qu'on peut pas tout numériser, c'est trop cher, c'est trop compliqué à gérer, et ainsi de suite, mais que on a intériorisé un présupposé de la technique informatique qui fait problème. C'est que le numérique ne peut pas penser l'oubli. C'est simple, il ne peut pas penser l'oubli. Il peut penser l'oubli seulement comme une faille technique, comme une forme de perte. Alors que, il suffit de regarder, on sait dans notre histoire, mais aussi des textes à la fois classiques et pas si classiques, que ce qui aussi caractérise l'humain, c'est sa puissance d'oubli. Et là, je crois qu'il y a quelque chose, un vrai problème qui se pose avec ce phénomène du patrimoine numérique qui veut imposer le modèle qui est intérieur à la technique informatique. Et moi, j'ai parlé à des gens qui fabriquent des choses sophistiquées en algorithmique, ils ne peuvent pas programmer la machine à oublier. C'est quelque chose qui passe pas. Les langues de programmation ne sont pas pensées, conçues pour faire ça. Et du coup, c'est seulement une forme de perte, une faille, il faut récupérer, il faut avoir une sauvegarde, ainsi de suite. On parle pas du même oubli. Mais curieusement, c'est cette manière de penser et réfléchir sur l'oubli de la technique qui est importée sur notre rapport avec la mémoire collective et ses héritages. Évidemment, là, on peut élaborer et développer la question, je sais pas si vous l'avez pas lu ou non, le dernier livre de Jack Goody, sur le rapport entre la construction du récit dans une culture surtout non occidentale et la constitution du patrimoine. Et je crois qu'il y a de vraies questions qui se posent et pour moi, c'est une dimension de ce que j'ai appelé humanisme numérique. Je crois que j'ai fait mes 40 minutes. Merci.
Pour cette tournée à la fois des grandes hypothèses de son ouvrage et des extensions de la politique et culturelle de ses réflexions. Je vous laisse avec des questions, des commentaires, des répliques sur certaines des propositions qui ont été avancées.
Est-ce que votre livre est publié seulement en version papier? Est-ce qu'il existe une version numérique?
Alors, la réponse est double, comme toujours. Il existe en format numérique, mais pirate, qui est disponible, mais pas officiel pour le seuil, parce que j'ai refusé de signer le contrat numérique avec eux, parce qu'ils sont incapables de produire un objet à temps. Alors voilà, c'est la réponse. Il est disponible en numérique, mais pas officiellement des éditions du seuil.
Pas disponible en version modifiable et jouable.
J'ai pas fait ça pour l'instant parce que moi j'ai une réflexion que le livre augmenté tel qu'il est aujourd'hui, je suis pas tellement convaincu par ce modèle de l'augmentation tel qu'il est aujourd'hui. Et il y a des choses, il y a maintenant de la lecture immersive, on a des applications qui seront mises en place, mais pour cet essai non, j'ai la version disons simple, non augmentée.
Oui. Dans cette culture du numérique, comment évaluer la modification ou l'évolution de la relation qu'elle impose entre historique, entre l'image et la parole?
C'est difficile, c'est compliqué. C'est la question, en partie la question qu'on a souvent eue, et je crois avec le numérique, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une forme discursive de l'image qui s'est introduite à cause de la nature de la technique elle-même. Et en même temps, il y a une manière de voir le texte qui n'est plus simplement comme forme de la lecture profonde. C'est-à-dire, il y a comme une double hybridation, je dirais. Mais pour essayer de répondre de manière peut-être plus directe, je dirais que l'image, pour moi, quand j'ai parlé de la miniaturisation, ce qui m'a intéressé dans cette dimension-là, tu vois, je dis ça, c'est que l'image a été construite classiquement, que ce soit avec la perspective ou même les gens qui sont révoltés quant à la perspective, avec une conscience du statut du spectateur. Il y a la distance, qu'elle soit proche, éloignée, telle qu'on veut la construire, le spectateur était là. Et je crois que le numérique a éliminé de manière radicale cette position du spectateur. Et c'est là où je vois la question pour moi. Le fait qu'on peut s'approcher d'une image, même virtuellement, tactilement, à la distance qui était, comme s'appelle le livre de Michael Fried, Absorption and Theatricality, n'est-ce pas ? Cette idée de la théâtralisation de la distance entre le spectateur et l'objet regardé a été modifiée. Mais elle touche également à l'auteur du texte. Et du coup, elle est en train d'imaginer des pratiques qu'on connaît en partie parce qu'elles reprennent des formules et des formes qui nous sont familières, mais en même temps, ce sont des usages qui modifient. Alors, du coup, on retrouve des manières de voir l'image qui sont, par exemple, tactiles. Ce qui était avant n'était pas très bien le cas. Il y a, par exemple, les thèses de Bruno Latour qui nous dit qu'avec une reproduction numérique à très haute qualité, l'aura se déplace de l'objet original vers la version numérique, si on accepte la thèse de l'aura de Benjamin. Ça reste à discuter. Moi, je ne suis pas du tout convaincu, mais je trouve que ce qui est en train de se faire, c'est tout à fait autre. C'est-à-dire, par ce retour du corps, le statut de l'image est modifié comme le statut du texte. Comment ça va se jouer entre les deux, je ne sais pas.
Oui, j'ai été très interpellée par ce que vous appelez le retour du local, parce que évidemment, on pourrait dire que c'est à contre-courant d'une autre manière de parler du numérique, la délocalisation, la globalisation. Mais ça m'intéresse beaucoup, puis je me demandais pourquoi j'accrochais comme ça sur ce détail-là. Et je me demandais si on ne pourrait pas penser la chose en revenant un peu à cette image de l'usage effectif d'Internet. Oui. Donc je me demandais, je pense que vous avez raison, qu'il y a un retour du local, mais dans l'usage suggéré. C'est-à-dire, vous avez bien montré, Google, les moteurs de recherche, nous montrent dans la langue locale, les plateformes de réseaux sociaux nous suggèrent des amis que nous connaisserions peut-être localement. Mais dans l'usage effectif, je parle en tant que blogueur, disons, il y a une déterritorialisation, une délocalisation des sociabilités. Les gens qui lisent mon blog peuvent venir de la Suisse, de la Belgique, des États-Unis. Plus que jamais, la sociabilité est délocalisée. Donc, je me demandais, c'est ça, si on pourrait pas un peu faire jouer cette notion d'usage effectif et d'usage suggéré.
Non, mais je suis absolument d'accord avec vous. Je crois qu'on est en train de vivre ça, mais aussi en train de vivre une dimension de l'identité numérique elle-même qui se traduit par la nature des productions, qu'ils soient de nature textuelle ou autre. C'est-à-dire que l'identité numérique, elle est aujourd'hui constituée par l'historique de l'agrégat d'une présence sur le réseau. Elle est relativement détachée du territoire et de la généalogie. Et du coup, la généalogie qui est construite, c'est l'historique du point de vue de l'informatique. Et là, on retrouve exactement ce que vous êtes en train de décrire. Alors, curieusement, cette dimension a aussi des potentiels de contrôle, mais également de détournement. Et c'est en question que comment on choisit de faire, et surtout, pour moi, ce qui joue avec ces questions-là, c'est quelle sorte de compétences se mettent en place qui vont permettre de contourner et manière de faire des choses. Mais moi, je suis entièrement d'accord. C'est une forme de double. À la fois, il y a une contrainte. Moi, je le vis tout le temps. Je voyage pas mal, et c'est vraiment très intéressant d'observer. Même vous pouvez, si vous avez un iPhone ou un Android aujourd'hui, les algorithmes qui apprennent. Il suffit de donner, permettre la correction automatique. Et si vous écrivez en deux langues pendant une semaine, vous allez avoir des mots qui n'existent en aucune langue, qui vous sont suggérés sans cesse. C'est très, très impressionnant. Et là, on voit aussi le rêve, la folie de la machine qui sont passionnants. Mais néanmoins, ils sont là. Et c'est exactement à cette diversité. Parce que la machine ne peut pas imaginer la diversité que nous, on peut. Il y a de formes normatives qu'on essaie de moduler de manière granulaire, mais il est très, très difficile de faire comme on le fait.
J'aimerais vous entendre si les réflexions sont faites de ce côté-là sur l'érudition. L'érudition. L'érudition est un mode de production du savoir qui a été progressivement disqualifié dans les humanités. Or, dans les zones numériques que je connais un peu, romans policiers, science-fiction, c'est l'émission, on assiste à l'émergence au contraire d'une forme d'érudition extrêmement sophistiquée, mais de gens qui sont d'un milieu tout à fait différent du milieu académique que nous fréquentons ordinairement. Comme si c'est un mode de savoir très très différent de celui qui est valorisé par l'institution surgissait dans cet environnement. Est-ce que, d'après vous, c'est quelque chose qui tient à la possibilité technique qui est offerte ou à quelque chose qui tient à l'environnement lui-même?
Je crois que c'est à la nature de la technique, moi, parce que je crois que l'érudition fait même retour de force, parce que là, il suffit de regarder que la nature du code lui-même est érudite. C'est une pratique lettrée. Il suffit d'ouvrir un code et voir la culture du commentaire et les débats qui peuvent exister dans un code assez complexe. Et il y a une forme lettrée pratique qui se traduit au fur et à mesure dans des milieux qui ne sont pas strictement institutionnels ou académiques. Il y a été un très beau livre de 73-74 de Donald Knuth, qui est l'un des grands informaticiens, qui a écrit la plus grande majorité des algorithmes qu'on utilise aujourd'hui, mais qui est aussi l'inventeur de tech, la tech, CTech, toutes les mises en page aujourd'hui, mais qui a fait un très beau livre, un très bel essai, qui s'intitule Literate Programming, le codage lettré. Et c'est assez tôt, et on voit déjà des réflexions précisément sur les pratiques érudites à l'intérieur du code lui-même. Et pour moi, il y a un passage, ça, avec ces autres zones, la culture policière, du roman policier, comme d'autres, et c'est absolument autonome. Moi, ce qui m'intéresse, par exemple, c'est quelque chose qui me préoccupe, c'est la science-fiction. Et là, on trouve des pratiques érudites, mais étonnantes, absolument remarquables. Des encyclopédies en ligne qui existent depuis longtemps, et qui s'enrichissent, mais qui sont vraiment... voilà, exactement. Mais absolument. Mais ce qui est curieux, c'est que ces pratiques érudites n'ont plus la valorisation institutionnelle. Et c'est là où l'institution est en crise, je trouve. Moi, j'ai travaillé sur un projet en philosophie avec des collègues italiens et allemands pendant longtemps. Et la seule solution qui était acceptable à la fin pour obtenir le financement, c'était de transférer, de convertir les pratiques telles qu'elles existaient à l'époque dans un département de philosophie en France ou en Allemagne vers le modèle numérique. Parce qu'autrement, ça aurait été inacceptable. Et du coup, il y a ce... Enfin, alors qu'aujourd'hui, on sait très bien que ça passe pas comme ça. On ne peut pas continuer de cette manière. C'est l'institution qui doit se modifier et, en tout cas, s'adapter en partie. Mais on est en train de vivre cette mutation au jour le jour.
Tu prononçais le mot de valorisation. La question de la valeur est importante. Il y a traversé plusieurs éléments que tu as mis en place. La question du voisinage, la curation, même l'établissement du patrimoine, on a parfois l'impression que le numérique vient aplatir la question de la valeur en disant tout se vaut, tout est disponible et les gens démocratiquement vont venir établir quelles sont les zones intéressantes qui vont peut-être bénéficier de certains effets de mode. Mais par ailleurs, et peut-être t'entendre sur cette question, est-ce que c'est simplement un calque de la culture du monde réel par rapport au monde numérique? Est-ce que le fait qu'on en vienne finalement à élire des gens en qui on a confiance, que finalement sur Twitter on ne suit que certaines personnes dans certains domaines parce qu'elles sont des références, mais des références établies de quelle façon? Est-ce que c'est simplement un calque du monde ancien ou c'est simplement le fait de dire l'aplatissement que l'on prétend dans le numérique est une vue de l'esprit parce qu'on a toujours besoin, non pas d'une valeur ou d'une autorité, mais d'une forme de sanction qui vient un peu remettre peut-être à sa place cette banalisation du geste éditorial.
Je suis d'accord. Moi, je l'ai dit un peu différemment, mais je crois en rien au même. Je dis, avec la sociabilité numérique, quand on s'est élargi au-delà de la relation primaire, on a vécu, on est en train de vivre, dans des contextes très très différents, et même multiples, la construction sociale de la confiance d'une manière différente. Et c'est des modèles de confiance qui se mettent en place. Followers, il y a c'est très très, le Twitter de ce point de vue-là, il est très très important, parce que c'est très différent de Facebook dans cette idée. Et il y a une construction sociale de la confiance qui se met en place. Alors, avec cette construction sociale, évidemment, on retrouve des modèles à la fois à la limite entre l'individuel. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est les modalités de transfert de la confiance. Il y a d'une part des modalités qui sont automatisées, qui arrivent à passer, mais pas autant que ça. Et il y a des modalités qui restent relativement restreintes. Et c'est là où on trouve les plus grandes formes de l'autorité. Et c'est quelque chose à voir. Alors, effectivement, du point de vue de la technique, c'est intéressant parce qu'il y a une autre manière de le voir, c'est-à-dire on peut imaginer un rapport qui existe avec des formes de sécurité qui se traduisent en formes de confiance. Et curieusement, dans toute l'histoire depuis 1989, je dirais, ça n'a jamais réussi. Il faut se rappeler tous les logiciels de cryptage, PGP, ainsi de suite, qu'on essaie de voir, n'ont jamais eu le succès que quelque chose qu'on a un choix qui est impliqué de manière de valorisation qui n'est pas exclusivement technique. Et là, je crois qu'on est sur le même registre.
Moi, en fait, ma question, ça serait... C'est le rapport à la mimésis, en fait. Comment voyez-vous la problématique de la mimésis quand on prend, par exemple, le cas du numérique et le réel? Comme, est-ce que vous pensez qu'on peut parler d'une espèce d'inversion, le réel qui suit désormais le numérique dans certains cas, comme on le voit, par exemple, avec les hackers qui, des fois, peuvent contrôler certains systèmes et puis... faire basculer certaines problématiques socio-économiques, en fait.
Oui. Alors, moi, j'ai deux manières de répondre. La première, je crois que la culture numérique a commencé au début en imitant les formes qui nous sont familières, que ce soit dans la mise en page ou du réel. Mais aujourd'hui, avec l'évolution et la mutation qu'on est en train de vivre, elle est en train d'affirmer son autonomie et de s'éloigner de ces formes classiques. Et du coup, c'est une partie de l'attention. Mais au-delà de là, je crois quelque chose de plus important pour moi, dans ce rapport entre virtuel et concret, disons, et les rapports d'imitation mimétique, il me semble aussi que les interfaces, pas les dispositifs, les interfaces étaient au début conçues pour des raisons purement fonctionnelles. Il suffit de réfléchir et se rappeler nos usages d'un distributeur de billets bancaires. Mais aujourd'hui, c'est le monde qui est en train de se transformer en interface. Avec ce détail important, au lieu d'accéder à une particularité fonctionnelle ou concrète, on accède au numérique lui-même. Et c'est le monde qui devient l'interface. Au lieu de reproduire dans le virtuel le monde, il y a un passage de l'autre côté. Et ça, c'est très puissant. Et ça revient à la dimension que j'ai évoquée avant, de cette spatialité qui est en train de se mettre en place. Et on nous parle par exemple de web des objets. On parle de toute une série de choses et on va avoir des vases communicants, des choses qui sont relativement simples. Vous n'avez plus de lait dans votre frigo, on va vous commander automatiquement. C'est bien, mais on ne parle pas exclusivement de ça. Il y a quelque chose qui modifie dans l'atmosphère et l'environnement. Et c'est là que je vois ce rapport mimétique de reproduction, de simulation, comme on disait à un certain moment. On a oublié le mot simulation. On parle d'émulsion parfois aussi, on a dépassé ce mot.
Jean Baudrillard.
Oui, mais maintenant, on a des difficultés. Parce que c'était sur des modèles qui étaient pré-numériques, à mon avis. Et même, moi, par exemple, si on prend les archives, on peut lire les textes classiques, Foucault, Derrida, tout ça. Mais ça ne s'applique pas aussi facilement que ça. Pourquoi ? Parce que c'était à une ère complètement, à mon avis, pré-numérique. Ouais. Et tu peux essayer de forcer l'analyse avec des concepts et des regards qui était façonné par une relation très très différente, c'est très difficile. C'est pareil avec ces concepts qui peuvent circuler. Ouais.
Et ça crée aussi d'autres temporalités, l'imprévisible. Je pense que c'est vraiment une autre forme de temporalité qui vient avec le numérique.
Oui, mais ça, au début, on a eu le discours que vous connaissez très bien, celui de l'accélération, la vitesse, la rapidité, le perte de temps de la réflexion. Mais maintenant, on est en train de retourner en disant quand même, ça modifie à la fois nos rapports avec le temps et l'espace, et ce n'est pas aussi simple que ça. Même avec la temporalité, je veux dire. Et ça reste à voir, parce qu'on n'est pas encore... On est au premier début, j'imagine, parce qu'on ce qu'on va vivre.
La question vient de me faire penser... Vous opposiez le numérique et le réel. Or, le numérique fait partie de la réalité même. Et ce serait quoi le mot ? Je cherche à chaque fois le mot qui s'opposerait à virtuel pour expliquer ce qu'on veut dire, mais qui n'en exclurait pas non plus le virtuel du réel. J'ai vraiment cherché comment vous choisissez.
Ma thèse est simple, c'est-à-dire qu'on est en train de vivre dans l'hybride. C'est vraiment un triomphe de l'hybridation. On voit un peu partout. Mais j'ai pas de mot qui va séparer et distinguer de ce qu'on dirait. Aussi, il faut se rappeler que le virtuel a été utilisé dans des manières très différentes, à la fois comme potentialité, dans le texte classique d'un Aristote, ainsi de suite, mais en même temps avec quelque chose qui crée un monde un univers beaucoup bien parallèle, différent, distinct, ainsi de suite. Il y a des conflits même dans les usages de virtuel, philosophiques et épistémologiques, qui ont eu des effets sur ce vocabulaire pour parler numérique, ou rapport au numérique entre concret, réel, le vrai. Ben, il y a des gens, par exemple, qui parlent sans cesse pour le lire, le papier, l'odeur, ainsi de suite. On connaît, je simplifie, mais on a ces questions qui se posent.
Une notion intéressante en anglais, en physical computing,
oui.
Qui est difficile à traduire en français.
Oui, parce qu'elle ne passe pas très. Pas d'équivalent. Mais c'est pareil, par exemple, cloud computing ne passe pas très bien. Parce que dans cette dimension du cloud, il y a beaucoup de choses. Moi, je dis toujours, il faut relire le texte de Hubert Damisch, Théorie du nuage, n'est-ce pas ? Malgré tout, c'était quoi ? Écrit dans les années 60. Et vous connaissez la thèse qui est remarquable, c'est-à-dire il regarde la peinture de Quattrocento et il dit c'est absolument étonnant, construit, mais selon toutes les règles de la perspective, sauf qu'il y a toujours un petit nuage qui vient perturber cette construction absolument impeccable d'un superbe tableau qui est assez à Maria Nobel, je sais pas. Et je crois que ces deux modes du cloud, ils ont utilisé par hasard, j'imagine. C'est intéressant. Mais néanmoins, on a un phénomène pareil qui à la fois réaffirme la technique en même temps qui perturbe ce qui est en train de se mettre en place, à la fois avec l'identité, avec le document, avec tout ce qu'on sait. Mais c'est difficile à traduire parfois. Et là, on voit un petit peu certaines des difficultés de.
Je me permets une dernière question parce que je vous résume un peu. Je travaille sur le comité de rédaction d'une revue d'un observatoire de littérature numérique. Et puis, il y a eu un super article qui a fait beaucoup discuter sur notre site web concernant les sociabilités littéraires et surtout le statut du commentaire dans les blogs. Et j'aimerais vous entendre un peu. Croyez-vous que le commentaire encourage une espèce de culture du consensus? Une espèce de sociabilité, c'est-à-dire, on approuve l'auteur, on le complimente, et est-ce qu'il y a place au dissensus et au dialogue réel?
Ouais, moi, je crois qu'il y a un vrai problème avec le modèle de consensus. Et pour moi, ça pose beaucoup de difficultés. Je suis très critique à cet égard. C'est le seul lieu où je suis très critique avec Wikipédia. Parce que Wikipédia a construit son geste modèle éditorial sur un modèle relativement simplifié, de forme de l'objectivité scientifique qui repose sur le consensus. Or, il se trouve dans notre domaine à nous, le consensus est un problème. Il faut l'éviter dans le cadre d'une sociabilité de la République des lettres un peu élargie, mais il ne faut pas du tout se laisser soumettre à ce modèle-là. Du coup, la culture du commentaire, elle doit être des formes de civilité, mais néanmoins, elle va permettre des formes d'autonomie qui sont exclues du modèle de consensus. Et là, on a beaucoup de choses à faire et beaucoup de chemin. Et je vois qu'il y a un modèle qui a gommé le succès de Wikipédia et de ces grands sites qui sont importants, et qui passent vers nos pratiques. Et là, il faut savoir, à mon avis, se protéger, se défendre dans l'autonomie de nos pratiques.
Merci beaucoup, Amélie.
Merci.
Merci de votre présence et de vos interventions.